Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes en VF, mais certifié sans doublage, pour débattre du sens de la vie, de nos joies, de nos malheurs, nos névroses, de l'état du monde, mais surtout de celui des séries, dans la joie journalistique et l'exultation critique. Si j'étais meilleur comédien, j'aurais pris une voix façon vieux micro pour vous annoncer que nous discuterons cette semaine d'un sujet qui mérite un peu plus de gravité, la mémoire des séries françaises. À en croire nombre de commentateurs, elles sont nées en 2005 avec Engrenage, et tout ce qui a précédé était honteux ou oubliable. Pourquoi met-on souvent de côté l'âge de l'ORTF ? Pourquoi, quand les Américains citent I Love Lucy et Dracnet, faisons-nous la fine bouche devant les 5 dernières minutes ou Vidoc ? Pourquoi les perles d'il y a 40 ans sont-elles coincées sur le site de l'INA ? N'y a-t-il pas un problème à ce que nos références soient américaines, anglaises ou danoises? Bref, les séries françaises et les Français tout court qui font et aiment les séries manquent-ils de mémoire? On en parle tout de suite en compagnie de deux membres de la CS, Benoît Lagan de France Inter. Bonsoir Benoît.
Salut Pierre.
Et Benjamin Faux du Point Pop. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Et d'un invité, comme c'est désormais régulièrement le cas dans un épisode des Jarrettes, le co-créateur et scénariste en chef d'Un Village Français, fin connaisseur de l'histoire des séries hexagonales, Frédéric Krivine, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
Good evening, I'm very pleased to be with you tonight.
Thank you very much.
Bon ben je crois qu'on peut retirer la candidature de Georges. On reste à deux suspects. Pile ou face, Moustier, Nadine, Nadine, Moustier.
Il y a forcément un qui ment. Et lequel ? Je sais bien qu'on a trouvé l'argent chez Moustier, mais il prétend que c'est son bas de laine.
Et il a vu arriver Nadine.
C'est donc elle qui mentirait. 5555 francs.
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
Ce podcast parlera de l'histoire des séries, mais l'histoire des séries, c'est aussi de la critique. On va en reparler. Posons les bornes de notre réflexion, si vous le voulez bien, chers amis. Non, les séries françaises ne datent pas de 2005 et d'Engrenage, évidemment. Non, elles n'ont pas débuté avec Salut les musclés en 1989. Elles remontent à bien avant, à une époque où la télé était en noir et blanc. Soyons pédagogues, elles remontent à quand ? On cite toujours I Love Lucy en 1951 pour la télé américaine. Qu'en est-il de la française ? Qui se jette à l'eau ? Benoît, au hasard.
Non, parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que la télévision, au début, elle est expérimentale. Donc, je ne sais pas, peut-être la toute première, je n'arriverai pas à dire. Ce qui est sûr, c'est que dès 57-58, on commence vraiment à avoir des séries. Les 5 dernières minutes, c'est 58, par exemple. Donc, et c'est, avant d'être une série, vraiment, c'est un jeu télé, plus ou moins. Enfin, voilà.
Oui, parce qu'en
direct.
Le public vient pour donner son avis.
Voilà. Et puis, les premières, c'est des dramatiques en direct. Donc, c'est pas forcément des séries, mais c'est des unitaires en direct. Donc, voilà. Moi, je dirais à ce moment-là, oui.
Techniquement, c'était bien avant. Mm-hmm. C'était assez rigolo. La toute première série, proprement une série live, comme on dit de nos jours, mm-hmm. C'est quelque chose qui s'appelle l'Agence Nostradamus.
C'est ça.
Qui a été filmé par Claude Barma, quasiment en cachette. L'été dans les studios vides et qui était déjà une série policière
déjà
en,
à l'époque
en
les séries étaient honteuses en France
c'est oui dingue. Alors c'est oui parce qu'il y avait un problème de il a eu beaucoup de mal à imposer l'idée
et c'était en quelle année
et c'était en 49 ou 50 très très
il y avait personne qui regardait
alors oui alors effectivement il y avait effectivement c'est bon à rappeler en France il y avait extrêmement peu de postes dans toutes les années 50 et même une partie des années 60 on a facilement 15 ans de retard au niveau de l'équipement sur les Américains et 5-10 sur même nos voisins allemands ou anglais. Donc on a la démocratisation de la télévision, c'était à la fin des années 60. Les années 50 et même le début des années 60, c'était moins de la moitié de la France.
Je crois qu'il y a un million de postes en 59, hein, de
c'est
mémoire.
Ça. Donc, c'est... Voilà.
Alors évidemment,
c'est ni rien ni massif. Quoi.
Évidemment, on va pas faire un cours magistral sur l'histoire des séries françaises, mais en vous y mettant à trois, peut-être qu'on pourra faire à peu près le tour, puisqu'on dit que c'est plutôt la fin des années 60. Est-ce qu'on pourrait en gros faire un tour d'horizon de l'état de nos séries jusqu'à la disparition de l'ORTF en 75 et surtout la privatisation de TF1 dans les années 80, 87. Bon, j'ai essayé de placer deux bornes hein, importantes dans l'histoire de la télévision française parce que ça peut être intéressant déjà de dire un peu ce qui s'est passé. Et ensuite, évidemment, on débattra du fond de la problématique de cette histoire de mémoire. Mais en gros, est-ce qu'il se passe quelque chose à cette époque-là ? La réponse étant oui, j'imagine.
Oui,
Benjamin.
Alors, en fait, dès le départ, la fin des années 50 et le début des années 60, on voit surtout en fait des séries américaines déjà à la télé française. Il y a plus de séries américaines que de séries françaises. Les séries françaises commencent à exister et se développent en reprenant à leur sauce, les formats américains. Il y a des séries policières, comme les 5 dernières minutes, c'est un peu particulier parce que ça vient d'un jeu, donc il y a quelque chose d'un peu plus ludique. Mais l'inspecteur Leclerc, c'est calqué sur des séries américaines. Il y a quelques séries fantastiques, quelques séries d'aventures dans les années 60, à la Bob Morane, au Chevalier du Ciel, etc., de l'exotisme, de l'espionnage. Mais surtout, il y a deux choses qui sont particulières vraiment stylistiquement à la France. C'est d'abord les séries de patrimoine, de KPDP, historiques, qui sont en général des feuilletons.
Thierry Lafronde.
Alors Thierry Lafronde, pour vraiment qu'il y ait vraiment une série, parce que c'est effectivement, il y a eu beaucoup d'épisodes.
De parodies aussi.
Et de parodies ensuite.
Et Thierry Lafronde qui se voulait un petit peu le concurrent d'Ivan Noé avec Roger Moore
à l'Angleterre.
Donc pareil, c'était un peu un décalcage aussi là-dessus. Et aussi, à chaque fête de fin d'année, on avait des grandes productions de KPDP, souvent très bonnes d'ailleurs, qui étaient sur 6 épisodes maximum. Et ça, c'était très français. Et la deuxième particularité française, c'est quelque chose qui est né en 61, je crois, et qui a duré bien 10, 15 ans jusqu'à la fin de l'ORTF, qui est le feuilleton quotidien de 13 minutes juste avant le journal de 20h.
L'ancêtre qui était de Plus belle la vie.
Exactement.
Vive la vie. C'était
Vive la vie. Il y a eu Vive la vie.
Daniel Secaldi.
Exactement. Et ça s'est enchaîné comme ça. C'était un peu sur plutôt mode novella, entre des petites novellas. Et il y a eu énormément de séries de qualité assez inégale.
La question, c'est tout à l'heure on disait au début c'était un peu expérimental. Là, on parle quand même d'une époque où la série était populaire.
Ah,
elle
oui,
était
bien
voilà.
Sûr.
Frédéric Rivin.
Non, mais je connais pas. Moi, je suis pas du tout historien des séries, mais la série est très présente à ce moment-là déjà. Je suis donc né en 59. Je veux dire, je regarde des séries américaines évidemment, comme le dit notre ami, et françaises donc. L'homme du Picardie, le 16 à Carbrillant, Noël aux 80, j'ai vu tout ça, j'ai été nourri de ça, on verra ce qu'on dira sur la mémoire. Mais moi, j'ai forcément cette mémoire en tant qu'auteur, puisque j'ai biberonné ça et les séries américaines. Ouais.
Benoît.
Alors, ce qui est intéressant, quand on discute avec des gens qui ne sont pas spécialistes de séries, mais qu'on rencontre, enfin que moi, il m'arrive de rencontrer comme ça régulièrement, les gens ont beaucoup la mémoire de ces séries-là, et notamment sur ces feuilletons, ils se souviennent, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de postes, on le disait tout à l'heure, ils se souviennent précisément de comment ils les regardent. Et c'était en fait des expériences assez intéressantes de façon collective, c'est-à-dire qu'on allait chez monsieur, j'étais dans la banlieue de Toulouse il y a quelques semaines, et on me racontait que dans la ville de Cornebarieux, dans la banlieue de Toulouse, on allait chez monsieur Besançon, et chez monsieur Besançon, il y avait tout le village qui se retrouvait pour regarder ces fameux feuilletons, notamment Jeannick Aimé. J'ai dans un autre village de France des vieux qui m'ont raconté que quand il y avait Jeannick Aimé, il n'y avait plus personne dans le village. Parce que tout le monde était devant le seul endroit où il y avait une télé. Donc il y avait quand même quelque chose qui se vivait avec les séries à ce moment-là, au-delà de la qualité de ces séries, bien évidemment, mais il y avait la volonté de donner rendez-vous et de créer vraiment des personnages qu'on aimait suivre comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que la disparition de l'ORTF a cassé quelque chose ? En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça change tout ?
C'est une explosion nucléaire, puisque la rentabilité, qui n'était pas vraiment une question, et qui donc ne limitait pas... Il y avait d'autres trucs hein, quand même qui limitaient hein, dans ce fameux âge d'or. Il y avait peu de gens qui travaillaient. Il y avait une pyramide des professions qui faisait que si vous ne plaisiez pas au haut de la pyramide, vous travailliez pas. Faut pas imaginer hein, les bisounours. Mais par contre, sur les sujets, effectivement, historique, science-fiction, fantastique, la question de la rentabilité se posait pas.
On pouvait faire des trucs assez dingues.
niveau scénario. Ils pouvaient faire des trucs assez dingues. Ils pouvaient manifestement essayer des trucs. Ils n'avaient pas le nez collé sur l'audimat, qui d'ailleurs n'existait pas exactement sous sa forme actuelle. Et l'éclatement de l'ORTF, c'est en même temps l'apparition de la production indépendante. Donc on ne peut pas non plus uniquement dire que c'est la fin du monde. Mais c'est quand même une explosion nucléaire, puisque rentre la question, il faut qu'une série soit rentable. Faut que, en tout cas, l'économie se joue, on ne fait pas n'importe quoi. On n'a plus le magasin de costumes hallucinant de la SFP.
Benjamin.
En parlant de ça, justement, il y a quelque chose qui, pour moi, fait énormément de tort à la qualité, pour le coup, des séries, c'est la vidéo. L'arrivée de la vidéo dans les années 80.
Donc de la cassette été, vidéo.
Du format vidéo, filmé en vidéo, qui a permis d'accélérer les tournages, n'a pas permis de travailler par ailleurs sur d'autres points de la série, sur faire répéter plus les acteurs, avoir de la liberté de temps. Ça a été utilisé pour aller encore plus vite. Il y a énormément de séries qui ont été tournées en vidéo dans les années 80. Qui ont perdu en qualité parce que on allait encore plus dans la rentabilité justement.
J'ai l'impression que c'est le début de l'industrialisation de la télévision française qui a causé un trou d'air finalement dans son histoire.
Oui. Ouais, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on était avant dans une télévision d'État. Enfin, je veux dire, c'est difficile de voir ça, on va dire sous un seul axe, parce que quand on regarde les dramatiques, les fameuses dramatiques, les grandes, je sais pas, Don Juan de Bluval ou quoi, c'est des formes, il y a des inventions formelles, c'est vachement intéressant. Après, c'était de la télévision, ça n'était que de la télévision d'État, là où nos amis américains, qui ne sont pas tellement nos amis, faisaient de la production indépendante depuis longtemps.
Depuis le début.
Et prenaient une avance considérable sur tout. Les métiers, la capacité à développer des concepts, ils se formaient à ce qu'est la concurrence et ses conséquences.
Une dernière question par rapport à ce tour d'horizon de l'histoire avant de rentrer dans le sujet à proprement parler, même si finalement on commence déjà à l'effleurer. On dit souvent, en tout cas les gens de ma génération, les gens qui ont grandi, qui ont regardé beaucoup de séries au début des années 90 et qui ont l'impression que la télé française, c'était l'aîné les garçons, salut les musclés, les productions avec production. On attaque toujours ça en disant, ouais, voilà, les années 90, c'est ça, le début en tout cas des années 90, c'est ces séries-là, et AB Productions a tué la série française. Est-ce que c'est une exagération qui est liée à une génération, ou est-ce qu'effectivement il y a eu un problème ces années-là, et on a pensé que les séries télé, que les Français ont pensé que les séries télé, c'était l'aîné des garçons, et du coup ils se sont barrés en courant?
Non, enfin, parce que ça, enfin, je suis pas, c'est pas catégorique. Je pense que chaque génération, de toute façon, va avoir sa série. J'imagine que pour certaines personnes, quand ils ont vu débarquer Jeannick Aimé, j'imagine, ils ont dû se dire, c'est quoi cette merde? Enfin, j'étais pas né, mais
comme ça,
voilà. Série, hein, mais forcément. Et donc, forcément, ceux qui étaient un peu plus adultes, ou qui avaient commencé à regarder des séries, quand ils ont vu les musclés et les autres conneries d'Abbé, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Sauf qu'il y a plein de gens plein de gamins qui ont pris l'habitude de regarder une série, un rendez-vous régulier avec Hélène et les garçons étant gamins, et qui à un moment donné peut-être sont tombés sur Seconde B qui a été proposée par France 2 à un moment donné, qui était un petit peu mieux, ou H Sensible qui était encore mieux un peu plus tard, et on n'en sait rien en fait. C'est pas
Classe Mannequin qui était vraiment pas mieux.
Voilà.
Ailleurs, Hélène et les garçons, sur lesquels je n'ai pas travaillé. Je ne suis pas l'agent. J'aurais pu commencer sur Hélène et les garçons. Mais il y avait un parti pris, il y avait une cohérence, il y a une vision du monde. Qu'elle soit, ça c'est peut-être. Mais je veux dire, il y a beaucoup de séries que je vois aujourd'hui à la télé française où il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que quand je vois aujourd'hui sur une chaîne du câble, enfin sur une chaîne
payante.
Un extrait d'Hélène et les garçons, en 5 secondes, vous identifiez immédiatement Hélène et les garçons, en tout cas une des productions AB. Il y a une esthétique. C'est pas une esthétique qui me convient. Mais il y avait un parti pris, une cohérence. Et
d'ailleurs, toutes ces séries sont des spin-offs les unes des autres.
Il y a un mode de production. Il y avait aussi un.
Et ça allait avec le mode de production. Il y a beaucoup de séries que je vois aujourd'hui, je vois pas ça. J'ai l'impression de voir un peu toutes les mêmes et j'ai pas ce.
Benoît.
Oui, Plus belle la vie, par exemple, aujourd'hui, beaucoup trouvent que la qualité est médiocre. Moi, je trouve que par rapport à Hélène et les garçons, c'est largement au-dessus en termes de qualité, mais c'est fabriqué d'une telle manière que, au moins, ça met en place une production, un mode de production, et ça, c'est bien pour pouvoir produire d'autres choses derrière.
La brigade des maléfices ne figure sur aucun document officiel de la préfecture de police. Personne dans le public ne soupçonne son existence et pourtant chaque jour s'étend le champ de ses activités. Bien des enquêtes menées par les plus fins limiers de la police judiciaire s'arrêtent soudain devant l'impossible l'incroyable, le surnaturel. C'est alors qu'intervient Guillaume Martin Paumier, chef de la brigade des maléfices. Sherlock Holmes de la féerie, Maigret de la sorcellerie moderne, expert en sciences occultes, familier de l'invisible, l'inspecteur Paumier ne refuse aucune des voies ouvertes sur l'inconnu. Il a accepté d'ouvrir pour nous quelques dossiers, de nous faire participer à quelques-unes de ces étranges enquêtes.
Maintenant que nous sommes remontés depuis 1950 jusqu'à la fin des années 90, pour dire les choses extrêmement vite, posons-nous quelques questions de fond. D'abord, pourquoi le public français ne semble pas plus au courant que ça de l'existence de la Brigade des Maléfices, dont on vient d'entendre le générique, ou de la Maison des Bois, et c'est à peine qu'ils sont Vidocq et les membres des Brigades du Tigre, parce qu'il y a eu des remakes en film. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les oublie, ces séries ?
Silence dans la salle.
Méditons.
D'abord, comment vous savez qu'ils l'ont oublié ? Première question que je dis.
Eh bien, parce qu'on en parle pas médiatiquement, il n'y a pas de visibilité.
Deux choses. On n'en parle pas, tout dépend qui, tout dépend quelle génération, tout dépend où. Le téléspectateur vraiment lambda, celui dont je parlais tout à l'heure, qui allait voir chez Monsieur Besançon, lui, il s'en souvient. Et il se souvient même de séries que même quand on a travaillé un petit peu sur l'histoire des séries, on va vite regarder dans le dictionnaire de Benjamin Faux pour savoir si ça a vraiment existé. Et oui, ça a vraiment existé. Et oui, ça... Enfin, c'est fou, en fait. Les gens ont vraiment
les gens se rappellent des séries qu'ils ont vues, quoi.
Voilà.
Moi, j'ai pas vu, là, et j'avais jamais entendu parler de la Brigade des Maléfices, donc c'est pas dans ma mémoire. Mais je peux parler assez longuement, et pas simplement parce que je suis scénariste, du César Kerbrian, de Vive la Vie, de L'Homme du Picardie, ou d'autres séries de ce moment-là. Je pense que c'est vraiment, pour les gens qui avaient la télévision, donc encore une certaine minorité dans les années 60, on grandit avec certaines séries qu'on a vues et qui vous marquent. D'une certaine façon, en tout cas en termes de mémoire, c'est sûr.
Benoît Laguen.
Oui, moi je pense qu'il y a un saut, il y a à un moment donné, il y a quand même un saut générationnel. C'est-à-dire que je pense, bon, nous on est nés dans les années 70 avec Benjamin, il y avait à l'époque encore, dans les années 80, des chaînes ou des moments dans les programmes de télévision qui rediffusaient des choses de nos parents. Moi j'ai vu Thierry Lafronde, mon fils n'a jamais vu Thierry Lafronde. Moi j'ai vu Thierry Lafronde, série que ma mère avait vue quand elle était plus jeune. Donc on parlait de ces feuilletons, Benjamin parlait des feuilletons du début. Il y a eu un Rocambole, par exemple. Rocambole, c'était tous les jours. C'était dans les années 60, 64, je crois, Rocambole. Mon père avait vu Rocambole. Mais moi, j'ai vu Rocambole le dimanche après-midi parce que ça repassait.
Oui,
donc cette culture-là, nous, on l'a peut-être eu un peu, sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus ça.
Benjamin.
Il y a un problème, effectivement,
de diffusion.
De diffusion, simplement. Oui. Il y a quand même beaucoup plus. Moi, j'ai été très surpris par le nombre de DVD qui sont disponibles de séries des années 60 et 70. Donc, si on creuse un petit peu, on peut voir beaucoup de choses en DVD. Par contre, effectivement, à la télévision en flux, il y a plus du tout.
Faut aller sur le site de l'INA.
Ou le site de l'INA, qui est très bien fourni également. Et pas très cher, donc c'est mais faut une démarche, c'est un peu, il y a quand même une démarche un peu.
Enfin, la majorité des séries, par essence, à mes yeux, on doit avoir une durée de vie assez volatile. C'est un plaisir modeste, la série. C'est un plaisir qui creuse, mais c'est un plaisir modeste quand c'est fini. Alors, il y a des séries dont on va considérer, il y en a quelques-uns en France, mais quand même pas beaucoup, qu'on est face à des œuvres qui ont creusé tellement quelque chose dans la société, je sais pas, comme The Wire ou. Mais c'est quand même assez rare, sur la masse, je veux dire, des séries.
Oui, mais ça dit peut-être quelque chose du regard français sur la culture sérielle, parce que les Américains rediffusent I Love Lucy, les Américains rediffusent des séries des années 60 et 70, et vous allez dans un hôtel aux États-Unis, vous zappez sur les chaînes, vous allez retomber sur des classiques. Ça ne se fait pas à la télé française, donc est-ce que ça veut dire...
Ah bah là, il y a une raison très précise. Les Américains, ils ont, disons, 800 chaînes. Non, je donne... Non, mais c'est
mais
un
la
problème.
TNT, par exemple, qui passe que de ouais, la télé-réalité, ça, les choses sans intérêt...
En pour... termes de volume, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un besoin, quand vous... Si vous imaginez, vous mettez dans la tête du petit, disons, télévisuel américain et de tout ce qu'il doit remplir comme grille, ils ne peuvent faire autrement que de puiser massivement dans l'histoire de la télévision.
Un signe de respect et d'amour des classiques de la télévision américaine, là où peut-être que la télé française contemporaine se contrefout des classiques de la télé française tout court.
Pas sûr. Peut-être, mais il n'y a rien n'indique, alors que vraiment la dimension industrielle des deux pays. Et les canaux qu'il faut remplir, la quantité de grilles qu'il faut remplir, ça, c'est, il y a qu'à aller au MIP TV pour voir les différences, quoi.
Il y a des choses quand même, enfin, chez les Américains, il y a une, dans le fait qu'on installe, notamment sur les networks, des séries très longues, donc, chaque semaine, il y a une habitude aussi sur certains moments de l'année, de rediffuser des épisodes, enfin ça se faisait, de classiques.
De Thanksgiving, voilà, de Noël. Voilà.
Donc il y avait ça, il y avait cette habitude. Du coup qu'après, en journée, on remette des vieilles séries, ça paraît tout à fait naturel. Moi je pense qu'en France, bon, il y a le nombre d'épisodes qui posent problème. Il y a le fait qu'on n'ait pas de créneaux très définis par rapport à la fiction en fonction des époques. Donc comment rediffuser des choses qui n'ont eu que 6 épisodes à un moment donné? Aujourd'hui, on les passerait comment? On les passerait sur une matinée entière sur HD1, enfin, ça n'a pas grand intérêt non plus.
Il y a aussi un truc très français et très particulier, parce qu'on a parlé du tremblement de terre au RTF, mais pas de la privatisation de TF1 et la naissance du 90 minutes. Apparaissent à partir de 85-86 le 90 minutes français, qui est pour le coup original, ça on peut pas lui retirer ça.
Donc un épisode dure 90 minutes.
Voilà, un épisode dure 90 minutes et c'est pas du tout, ou très très peu feuilletonnant en général, pas du tout. Or, ce type de programme n'est pas fait pour que le public s'identifie à un personnage vivant du conflit, ce qui est le cas de toutes les séries américaines, quasiment sans exception. Il n'est pas fait pour que le public soit involved profondément dans le programme. C'est pas qu'on ne sait pas faire, hein. Il n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. Ce 90 minutes, il est fait pour donner un plaisir, disons, modeste, mais irréfutable, où on n'a pas spécialement envie que les gens soient addicts. Donc, on est dans un rapport entre les séries et le spectateur qui est pas vraiment intime, relativement distancié, mais par contre où les gens évidemment, enfin, reviennent quand même. La conséquence de ça, c'est pas un problème de jugement de valeur, c'est que ce ne sont pas des séries qui font trace par essence, je dirais, les 90 minutes. Ça veut dire que quand vous regardez par exemple des Julie Lescaut, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé à l'épisode 14 fait pas vraiment trace sur le corps, on va dire, des personnages, etc. Et on peut les regarder dans le désordre, c'est d'ailleurs un de leurs grands avantages, on peut les rediffuser dans n'importe quel ordre. Donc quelque chose qui ne fait pas trace au moment de sa diffusion a forcément un peu de mal à faire trace dans la mémoire. Ça, c'est comme ça. Mais c'est lié, disons, à la nature précise de ces séries.
Et pourtant, ces 90 minutes font partie de ces rares séries qui repassent et re-repassent sur les chaînes de la TNT.
Parce qu'on n'a rien d'autre. Là, c'est juste parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre.
Pendant votre absence, j'ai été mis au courant de faits inquiétants. Depuis une dizaine de mois, certains cosmonautes qui reviennent soit de vols orbitaux, soit de trajectoires plus lointaines, seraient victimes, lors de leur retour sur Terre, de graves troubles psychiques. Pour ne pas affoler l'opinion publique, les deux grands de l'exploration spatiale ont fait volontairement le blackout sur cette affaire. Et les incidents auxquels ces troubles ont donné lieu ont été camouflés en faits divers. Je suis arrivé à la conclusion qu'il pourrait s'agir d'une maladie de l'espace. Et si cette maladie était contagieuse, vous voyez les conséquences.
Alors le public, c'est une chose, chers amis, mais que dire des scénaristes et producteurs français? Est-ce possible de voir dans les séries d'aujourd'hui des références à celles d'hier? Alors je vais d'abord laisser la parole à nos camarades de la CS. Est-ce que quand vous regardez les séries d'aujourd'hui, vous y voyez une mémoire? On va en débattre ensemble. Et ensuite, évidemment, je suis intéressé de savoir si Frédéric Krivine a lui-même la mémoire des séries françaises. Et si dans Un village français et dans d'autres séries sur lesquelles vous avez travaillé, vous avez utilisé cette mémoire, si je veux dire. Benoît.
Moi, j'en vois assez peu. Alors, bien évidemment, il y a des séries qui en jouent comme shérif en faisant des réflexions et jusqu'en mettant en place dans un rôle quand même Greg Germain, qui était un des comédiens de Médecins de nuit, où il y a toute une blague à un moment donné dans la série sur savoir est-ce que avant d'être flic, il n'était pas médecin. Enfin bon, donc on joue là-dessus. Donc bon, mais c'est très ludique. Ça reste ludique, mais au moins ça montre que les auteurs qui font la série, eux, ont une histoire, un rapport avec cette télévision là. Après, moi, je vois très peu. En revanche, ce que je pense qu'on peut voir en tant que critique quand on regarde une nouvelle série. Moi, par exemple, quand j'ai vu Engrenage arriver, je me suis tout de suite dit, c'est des gens qui ont digéré PJ, donc de Frédéric Krivine ici présent, et Avocat et Associés, produite série qui était diffusée dans la même case que PJ.
C'est le même réalisateur qu'Avocat et Associés.
Voilà. Qui est d'ailleurs une série, donc deux séries de la fin des années 90, ouais, qui sont, je citais Engrenage, hein, par provocation, même si elle a un rôle sans doute clé dans une certaine modernité aujourd'hui de la télé française, des séries françaises, mais qui déjà à leur époque avançaient, faisaient bouger le schmilblick, voilà, qui était plus sombre, qui était plus complexe, etc.
Et du coup, là, effectivement, moi, quand je vois Engrenage, je vois l'histoire. Je me dis, Engrenage n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu PJ et s'il n'y avait pas eu avocat associé, c'est clair. Mmh. Et Navarro, si Navarro n'avait pas existé, Frédéric Rivine n'aurait sans doute pas fait PJ pour mettre un coup de pied dans le dans la série policière. Enfin, je pense ça aussi. Donc oui, ça, on arrive un peu à le voir. Après, ça reste, je trouve, très limité.
Benjamin Faux, un mot à ajouter là-dessus?
Je pense que quand on est auteur, ou on travaille forcément avec du matériel qu'on a en soi et qui vient de ce qu'on a regardé nous-mêmes ou de ce qu'on a lu. Enfin voilà, c'est un melting pot de toutes nos influences et de toute notre culture. Donc on peut pas échapper à ça. Ceci dit, effectivement, dans la production française, depuis assez longtemps, j'ai l'impression que ce genre de choses est plutôt effacé. C'est-à-dire on a tendance à arrondir les angles et à ne pas jouer là-dessus. Shérif, c'est vraiment du clin d'œil. C'est pas vraiment, c'est vraiment sur le personnage. Et c'est beaucoup de clins d'œil, mais en général, on efface ce genre de choses. On donne l'impression d'avoir inventé l'eau tiède.
La parole est à l'invité, Frédéric Rivine. Et concrètement, vous, vous avez cette mémoire, et si vous l'avez, est-ce qu'elle est purement personnelle, puisque voilà, c'est votre plaisir de téléspectateur, ou est-ce qu'elle sert et elle a sa place et son rôle dans votre travail d'auteur?
Voilà, forcément son rôle. On est nourri des auteurs. On est nourri par ce qu'on a bouffé, ce qu'on a lu. Je veux dire, ce qu'on a bouffé aussi. D'ailleurs. Non, mais donc en ce qui me concerne, mais ça serait pas que des séries. C'est Don Le Carré, Ed McBain, San Antonio. Je veux dire naturellement. Bon, mais j'aurais du mal. Mais et Manix et les Envahisseurs pour parler de choses qui m'ont marqué. Je m'en suis pas inspiré. Mais ça m'a marqué vraiment.
Mais qui sont des séries étrangères pour le coup?
Ça, c'est des séries étrangères. Je cite les premières qui m'ont marqué. Le 16 acteurs brillants, j'y ai pensé quand j'ai développé le village français. J'y ai pensé, je pouvais pas ne pas penser parce que c'est une série quotidienne sur une espèce de silence de la mer qui dure longtemps. Mais je peux pas.
Ça racontait quoi le 16 acteurs brillants?
C'est le silence de la mer en feuilleton. Sauf que c'est long. Officiellement à la maison, joué par Louis Vell. Et on est à Kerbrillant en Bretagne. Et il y a une nana qui... Enfin bon, c'est le silence de la mer, mais enfin, avec d'autres storylines. Mais fondamentalement, c'est un feuilleton sur un officier allemand qui vit dans une ferme en Bretagne pendant la guerre. Alors, sur le fait de faire référence à des séries françaises, donc, il se trouve que la première série que j'ai co-créée, qui était Les Enquêtes de Chlorophylle sur France 3 en 93... Le Léraud, Loire des Greniers, était à la fin de chaque épisode de 13 minutes, il disait « Bon sang, mais c'est bien mûr », quand il avait trouvé l'assassin, ou en tout cas le coupable. C'était une série parodique, et pour enfants et adolescents, mais c'était parodique. Dans une série à prétention, disons, enfin pour adultes, sans être pornographique, je suis pas sûr qu'aujourd'hui les auteurs français vont se bousculer pour faire de la référence directe, disons.
Est-ce que c'est un problème, Benjamin et Frédéric, vous citiez tous les deux la mémoire, ce qu'on a mangé, ce qui nous a imprégné. Est-ce que finalement notre mémoire télévisuelle française, étant donné peut-être l'évolution des séries françaises et surtout leur popularité, leur renaissance, si j'ose dire, au début des années 2000 et plus particulièrement ces dernières années, font que nos références, en fait, c'est aussi la fiction américaine, c'est aussi la fiction britannique.
Il faudrait pas être
chauvin au point de se dire que c'est pas une mémoire, c'est une mémoire, mais c'est une mémoire anglo-saxonne.
Il y a une mémoire, j'insiste. Les gens se rappelleront très longtemps de Navarro. Mais ils se rappelleront pas spécifiquement, à mon avis, sauf de rares épisodes, ils se rappelleront du personnage de Navarro, mais c'est normal. Ils se rappelleront du mode de dialogue qu'il y avait entre le programme et les spectateurs, qui était une familiarité avec un héros comédien, avec un duo, disons, personnage comédien. On les aimait bien, on s'en souvient, mais on se rappelle pas des histoires, on s'identifiait pas tellement à ces personnages, on n'était pas bouleversé, on n'était pas scotché. Donc c'est voilà, ça participe. C'est une mémoire, mais c'est pas une mémoire qui nous a.
Moi, je pense que le rapport à la série étrangère, en particulier américaine, elle a eu lieu de tout temps, en fait, à la télévision française. Tout à l'heure, je disais, Thierry Lafronde, c'était parce que les gens voulaient faire leur Ivanhoé. Quand il y a Médecin de Nuit qui arrive, on met en place une série au moment où, aux États-Unis, commencent à se développer des séries d'un genre assez proche. Je pense que PJ arrive aussi parce qu'il y a eu NYPD Blue jusqu'au générique.
Et Navarro, Roger Hanin dit au cours d'une réunion de travail, je voudrais faire un Kojak à la française. Mmh. Voilà, il dit ça à Grimblat et à Tito Topin.
Et si, pardon Benoît.
Oui non, mais c'était parce que c'était pour juste dire, parce que moi par exemple le générique de PJ, il faut le revoir. Enfin, le générique voilà, de PJ, on a l'impression d'être le générique de NYPD Blue.
Ça, j'y suis pour rien.
Oui, vous y êtes pour rien. Mais
comme, je décline.
Mais quand même.
Toute responsabilité.
Mais sauf que ça montre que finalement il y a une volonté de toujours se rapprocher de codes étrangers quand ces codes étrangers sont hyper visibles.
Et finalement, est-ce que ça serait un problème si la mémoire des séries françaises se construisait plus récemment ? Est-ce qu'on peut se dire que peut-être, j'en reviens à Engrenage, mais on peut parler aussi d'Un village français, que c'est un peu aujourd'hui les deux séries fortes qui ont duré toutes ces années osons appeler ça un nouvel âge d'or des séries françaises, on verra comment tout ça évolue. Est-ce que finalement, cette mémoire, elle ne peut pas être en train de se construire là et qu'on verra le nouveau Un village français, le nouveau Engrenage, qu'il y aura des comparaisons qui se feront et que ça va se construire et que finalement, aujourd'hui, on est à la préhistoire, peut-être pas, mais en tout cas, on est à une nouvelle ère qui pourra s'auto-référencer, oserais-je dire.
Bah, de toute façon, on peut pas, moi, je suis mal placé pour parler de qualité en ce domaine, mais ce qui est sûr, c'est que on va lentement rejoindre le concert des nations qui font des séries où le public doit s'identifier aux personnages vivant du conflit. C'est aussi bête que ça, qu'on avait quitté depuis 86. En gros, je veux dire. Mmh. À partir de ce moment-là, il va certainement y avoir des séries qui vont faire plus trace que celles qui ont rayonné dans la France des années 90 et 2000, puisqu'on avait ce paradoxe incroyable. Les séries dont vous parlez aujourd'hui ne sont pas des cartons d'audience. Entre 86 et en gros le milieu des années 2000, on est avec des séries qui font 9, 10 millions de spectateurs, même quand elles sont rediffusées deux fois, trois fois.
Benjamin.
Oui, moi je me demande quand même si pour faire trace, pour marquer les esprits, et il faut pas, on ne doit pas apporter quelque chose. C'est-à-dire que on arrive à un moment où les séries françaises font effectivement savent faire très bien, mais des formats et des genres qui sont déjà posés et codifiés. Les séries dont on se rappelle le plus, qui ont le plus marqué, ce sont des séries qui ont pris des genres ou des formes préexistantes et qui ont apporté quelque chose de totalement nouveau. Si on se rappelle du Prisonnier, c'est parce que c'est à la fois une série d'espionnage, il y a un fond d'espionnage classique et il y a un brin de folie surréaliste totalement nouveau et qu'on n'a jamais vu avant. Twin Peaks, c'est pareil, ça part du soap policier qui est quasiment classique au moment de la sortie et ça invente quelque chose d'autre. Il y a plein de choses comme ça. X-Files, il y a de l'ancien, il y a des bases, il y a des fondamentaux et il y a aussi une patte, une touche
tout
totalement
ça,
innovante.
Tout ça
et
on pour a dire pas... qu'il va falloir que les séries françaises fassent
Et un peu le courage d'innover, de proposer des choses.
Frédéric est là pour le Village français. Il veut pas parler de qualité, mais moi je pense que le Village français fait ça justement. On a une tradition en France d'unitaire de autour de l'histoire, beaucoup de films sur cette période de l'occupation, et tout à coup, on a un Village français qui nous montre ce temps-là que la fiction nous a montré autrement. Engrenage fait la même chose, fait pas ci, fait pas ça, fait la même chose. Moi, je pense qu'en fait le problème, il est pour ta génération, Pierre. Parce que je pense que notre génération, on a pu se faire une culture, aussi moindre soit-il, une culture de fiction française avec des choses qui n'étaient pas terribles, mais aussi des choses plutôt sympathiques. Et puis, on a vu des vieux trucs que nos parents avaient vus. Et puis, il y a eu, au moment de ce trou...
Je suis né dedans, 80.
En gros, 80... Ouais. Moi, je dirais vraiment la privatisation jusqu'au...
Jusqu'au début des années 2000.
En gros, il y a 10 ans, là, où il y a toute une génération qui n'a vu que de la série américaine ou étrangère de qualité, finalement. Parce que
ou de la série française de confort modeste, de plaisir modeste.
Et donc c'est pour ça que la génération actuelle, si elle fait l'effort de sortir de ces téléchargements illégaux en permanence et de regarder un peu plus les séries françaises intéressantes qui se font, elle peut se faire cette culture-là. Et moi, je suis sûr que ça va aller très très bien dans quelques années.
Alors... Ça sera quand même gymnopédique, c'est-à-dire lent et douloureux, parce qu'il y a quand même, il y a pas beaucoup où lent est grave et lent est triste. Mais là, ça va être plutôt être lent et douloureux, simplement parce qu'il y a pas beaucoup, il y a très peu pour l'instant de séries de parti pris. Il y en a très peu, quoi, vraiment très peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour que ce phénomène puisse se passer, il faut qu'il y ait un certain nombre de produits de qualité, de séries de qualité, puis il faut qu'il y ait du choix, des trucs différents. C'est-à-dire, faut pas juste deux bonnes séries ou trois. Pour l'instant, on va peut-être y venir, on verra bien. C'est quand même très lent. Très très lent. Hein.
Deux questions pour clore ce podcast. La première, puisque nous sommes critiques, soyons presque autocritiques si j'ose dire, que dire de la relative ignorance de nombre d'entre nous, et moi le premier, mea culpa, quant à ces séries-là. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour en parler de ces séries-là. Est-ce que face à ces séries historiques, avec des guillemets, si on est passé à côté, si on ne les a pas vues, il nous manque quelque chose pour faire notre travail critique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un nécessaire rattrapage? Est-ce que chacun d'entre nous, membres de la CS, et tous ceux qui veulent critiquer les séries, on a besoin d'aller se remettre le nez dans les séries de l'ORTF parce qu'il nous manque, un petit élément pour faire de la critique de séries françaises en tout cas?
Alors, pas forcément, je vais un peu faire le ni oui ni non. en fait, pas forcément parce que l'essentiel de la grammaire est contenu dans ce qui a été fait depuis 20 ans, sans problème. Mais ensuite quand même, vous perdez quelque chose, quoi, parce qu'il y a des séries super. Il y a des séries qui sont drôles, ouais, vraiment, ouais. Y a des séries qui sont drôles, qui sont belles. Après, voilà, mais après, c'est le problème des critiques, c'est qu'on est parfois obligé de regarder aussi des mauvaises séries, ouais. Sans forcément choisir. Et on préférait regarder des bonnes vieilles séries, effectivement, oui.
Moi, je dirais le ni non ni oui. Non, mais tout dépend ce qu'on veut dire. Tout dépend comment on le dit. Moi, ce qui parfois m'agace dans notre profession, c'est qu'on a une tendance, quand on voit une nouvelle série française qui change un peu, de dire « Waouh, c'est la première fois !» Eh, calme-toi. Avant de dire que c'est la première fois, là, tu travailles. Et là, tu vas voir si c'est la première fois. Moi, je me souviens, quand Le Village français est arrivé, avoir cherché le 16 à Kerbriand, Frédéric Rivine, je l'avais interviewé, et on en a parlé. Voilà, c'est juste ça. Avoir ce réflexe d'essayer de regarder quand fait pas ci, fait pas ça, bing, j'ai posé la question de Papa Poule. Parce que Papa Poule, déjà, dans sa façon de fabriquer sa série, racontait une famille un peu moderne pour l'époque, dans le rapport de comment un père éduquait ses enfants. Voilà, juste savoir ça. Après, on n'est pas obligé, bien évidemment.
Alors, Benoît, tu viens de donner des exemples. Allez, donnons 3-4 titres pour ceux qui nous écoutent. S'il fallait absolument aller sur le site de l'INA et regarder celle-là, celle-là et celle-là, en gros, lesquels il faut vraiment sortir du lot. Frédéric Rivine participe aussi. Si on en veut en sortir une ou deux chacun, lesquels faire ressortir de cette époque-là que peut-être notre public ne connaisse pas.
Je ne sais pas si le public a envie de revisiter mon enfance. Hein. Donc, je veux dire, moi, je peux dire qu'est-ce qui m'a touché moi.
Eh bien, allez-y.
L'homme du Picardie, avec Christian Barbier, sur une péniche, c'est lent. De toute façon, il faut savoir que quand on se plonge dans ces séries, ça va être lent. Ça peut être génial, ça sera lent. Ça vous paraîtra forcément très très lent.
Mais qu'est-ce qui s'y passe dans l'homme du Picardie? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne voit que la parodie, qu'aujourd'hui, on a en tête que effectivement, c'est lent. C'est lent.
Bah, c'est l'histoire d'un type qui tient sa péniche, il a des problèmes conjugaux, c'est difficile à pitcher de cette manière, parce que d'abord, je m'en rappelle pas suffisamment. Moi, j'ai des images. Mais c'est ce que je vous dis. Je peux pas vous dire que c'est bien. C'est juste mon enfance. Donc, mon enfance est très bien pour mon entourage, c'est tout.
Benoît Lagan, un conseil.
Non, mais moi, ça va être trop facile parce qu'à Sérimania, par exemple, je tenais à ce qu'on voit Post-Café. Parce que je trouvais que Post-Café, pour les années 80, était une série moderne. À ma déception, il n'y a pas eu assez de gens qui sont venus justement voir Post-Café. Je trouve dommage, parce que là, ils auraient vu ce qu'était une série politique dans les années 80, tout en étant dans une forme très grand public, un peu lente, mais moins que L'Homme du Picardie. Voilà, donc par exemple, ou Les Saintes Chéries. Moi, je pense que Les Saintes Chéries sont en DVD. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien de regarder Les Saintes Chéries pour voir ce qu'était la France de ces années-là.
Un épisode des 5 dernières minutes, quand même. Il faut voir un épisode des 5 dernières minutes, notamment ceux où on voyait filmer les différentes hypothèses qui étaient toutes filmées, ce qui est très intéressant en termes de grammaire du cinéma.
Benjamin Faux, qui est carrément venu avec des DVD. Hein. On n'est pas à la
télé. Oui, parce que comme ça, je voulais montrer que c'était facilement, c'était très faisable. J'avais pris deux exemples.
Bon, alors, en plus, il faut en parler de celle-là. Ouais,
voilà. La Maison des Bois de Maurice Pialat. Voilà, c'est 6 épisodes, voilà, tournés pour la télé. Ça se passe donc pendant la Première Guerre mondiale. C'est sur des enfants qui sont envoyés loin du front, en vacances, entre guillemets. C'est absolument magnifique, c'est du Pialat et c'est un chef-d'œuvre. Ça dépasse vraiment le
et ça fera taire tous ceux qui diront oh là là, nous les grands réalisateurs français sont jamais venus à la télé.
Il y en a qui ont commencé quasiment à la télé et c'est le meilleur souvenir de Dixit Pialat, c'est son meilleur souvenir de tournage.
Il y a Palace aussi, on n'a pas parlé dans les séries. Palace. Dans les séries marquantes quand même de ces années-là.
Et on referme là-dessus ce 6e épisode de la saison 2 de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Je suis Pierre Langlais de Télérama et j'étais accompagné cette semaine de Benoît Lagan de France Inter et Benjamin Faux du Point Pop. Merci messieurs. Merci aussi à Frédéric Krivine d'être venu discuter avec nous aujourd'hui à quelques semaines de la fin d'un village français sur France 3. Ça va pas tarder, on attend ça. Merci aussi à Bristar, aux manettes cette semaine et au public en folie de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. La semaine prochaine, on s'attaquera à une autre question épineuse. Quel impact Donald Trump et l'Amérique qu'il représente a eu ou va avoir sur les séries américaines ? Plus de comédies satiriques ou au contraire plus de drames patriotiques ? D'ici là, suivez la CS sur Facebook et Twitter où vous trouverez aussi les comptes de Un épisode et j'arrête qui adore qu'on les like. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait. That's the last one.